Aujourd'hui, notre invité est Guillaume Guérin, le président de Limoges Métropole. Nous allons parler avec lui des projets en cours, mais aussi à venir dans la communauté urbaine. Écologie, désenclavement, emploi, les sujets sont nombreux dans ce podcast. À mi-mandat, Guillaume Guérin, pouvez-vous dresser un bilan de ces trois premières années avec un mode de gouvernance partagé qui semble plutôt bien fonctionner?
Je crois que c'est la réussite d'une méthode globale. La méthode globale, c'était la gouvernance partagée. C'est-à-dire que j'ai souhaité ne pas retomber dans les travers du mandat 2014-2020 au sein de Limoges Métropole, où il y avait une opposition très frontale entre l'ancien président de l'époque et le maire de Limoges, des tensions permanentes sur à peu près tous les sujets. Ça ne tire pas le territoire vers le haut. Donc j'ai souhaité mettre en place ce que d'autres ont fait ailleurs dans ce pays, c'est-à-dire gérer l'intercommunalité via une gouvernance partagée, considérant qu'une intercommunalité, ce n'est pas un département ou une mairie, il n'y a pas une majorité et une opposition. Il y a des maires légitimement élus qui amènent avec eux un certain nombre de conseillers communautaires au prorata de la population de leur commune. Et donc, qu'on les considère compétents ou pas, qu'on les aime ou pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à les faire travailler ensemble dans l'intérêt du territoire et dans l'intérêt des populations. Donc, on a rédigé un document cadre qui a mis près de 8 mois à sortir, qu'on a baptisé projet de territoire, parce qu'il n'y en avait pas sur le territoire communautaire à Limoges. C'était d'ailleurs une des rares agglomérations de France de plus de 100 000 à ne pas avoir de feuille de route. Donc cette feuille de route, elle a donné lieu à de nombreux débats, elle a donné lieu à de nombreux échanges avec le tissu associatif, avec les élus bien sûr, les chambres consulaires, le monde économique, le monde universitaire. Et ce document a été soumis à un vote du Conseil communautaire et il a été voté à l'unanimité. Quand on connaît l'histoire de cette EPCI et qu'on sait d'où on part, c'était quand même pas forcément acquis d'avance. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de territoire? Il y a un plan d'action pour les 10 prochaines années qui repose sur 2 grands axes, le développement économique et la durabilité, les transitions, parce que je considère que ça doit être le socle et le ciment de ce projet. Et puis à l'intérieur de ces 2 grands volets, il y a des fiches action sur chacune des politiques publiques que l'on mène de manière très précise, avec un budget alloué à chaque opération, avec un suivi par chaque opération, de façon à ce qu'on sache à mi-mandat ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui ne sera pas fait. Parce qu'il faut aussi se dire qu'il y a des choses qui ne seront pas faites, parce que les finances des collectivités locales, et les nôtres en particulier, sont compliquées. Aujourd'hui, nos ressources sont de plus en plus limitées, nos compétences sont de plus en plus importantes, mais force est de constater que l'État n'a pas toujours été au rendez-vous de l'accompagnement des collectivités territoriales au cours des dernières années. Donc, encore une fois, beaucoup de pragmatisme, avoir cette feuille de route comme, comme gouvernail, comme plan, comme guidage pour porter ces politiques publiques jusqu'à la fin du mandat. Et puis certaines iront même au-delà du mandat 2020-2026, parce que ce sont des politiques publiques qui sont lourdes. Mais je crois qu'en matière de développement économique, les premiers résultats sont plus qu'encourageants.
À mi-mandat, peut-on faire un bilan des projets qui ont déjà été réalisés?
Là, sur le DEVECO, on a fait beaucoup de choses. On va avoir engagé la rénovation d'Esther, 20 millions d'euros. On a créé un bâtiment start-up qui va voir le jour dans l'année et demie qui arrive, où on injecte 3,5 millions pour avoir une écloserie des start-up et des entreprises innovantes sur ce territoire. On a mis en place une rationalisation des politiques foncières avec un renforcement des services de Limoges Métropole sur la partie développement économique, de façon à avoir une veille foncière, à accompagner les entreprises dans l'achat de terrain et surtout leur faire gagner du temps, parce que tous les territoires sont en concurrence. Et vous le voyez bien, si nous ne sommes pas réactifs sur l'accueil des entreprises, tout simplement elles vont ailleurs. Et donc faire en sorte d'être efficace là-dessus, parce que je le redis et je le répète tout le temps, il n'y a pas de capacité à financer le service public s'il n'y a pas de création de richesse. La gratuité n'existe pas. Et donc la priorité des priorités pour ce territoire, c'était de recréer de l'emploi. On a perdu le statut de capitale régionale en 2015 suite à une réforme du président Hollande. On a perdu 1000 emplois publics sur ce territoire, ce qui est une catastrophe pour la ville en termes d'impact dans les écoles, parce que les parents sont partis aussi avec leurs enfants, en termes de pouvoir d'achat, en termes tout simplement d'actifs présents sur un territoire. Et puis le gouvernement de droite précédent, en la personne de François Fillon, nous avait supprimé l'armée. Donc on a perdu près de 1600 emplois en l'espace de 5 ans. Donc tout ça, ça doit se rattraper, ça doit se compenser. Et donc c'est la priorité des priorités. Donc on fait en sorte d'aller aussi, entre guillemets, draguer des entreprises qui seraient susceptibles de venir s'installer en province. On fera, avec le maire de Limoges, des annonces à la fin de l'année, au début de l'autre, là au moment des vœux qui sont... trouve très rassurantes pour le territoire et qui moi, me satisfont parce qu'on a réussi notre pari. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en passe d'installer deux très grosses entreprises sur le territoire de Limoges Métropole. Une sur la ville de Couzex, qui est une entreprise de manufacture donc, qui va embaucher entre 200 et 300 personnes. Et une autre en plein centre-ville, dont on est en train de finaliser l'arrivée, qui, elle, pourrait ramener jusqu'à 400 emplois qualifiés, pour le coup, en plus. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont un traitement, enfin, un salaire qui leur permet aussi de consommer sur place. Et donc, ça, c'était notre cheval de bataille. C'est l'engagement qui est le mien. Vous savez, je considère depuis longtemps, et d'ailleurs, c'est un peu le reproche qui m'est fait, de ne pas être assez présent au CSP, de ne pas être assez présent dans la rue, de ne pas assez dire bonjour aux gens au hall parce que j'y vais pas suffisamment. La politique, c'est pas embrasser un couple de retraités, caresser le chien et faire du serrage de main toute la journée. C'est un peu plus complexe que ça, la politique. La politique, à mon sens, ça nécessite d'être dans l'action au service de son territoire. Et pour ça, quand vous voulez implanter des entreprises, il faut être capable d'aller les chercher. Et malheureusement, dans ce pays, depuis très longtemps, beaucoup de choses se passent à Paris. Donc il faut être capable d'aller les démarcher, il faut être convaincant, parce que ça ne se fait pas tout seul. C'est pas en restant cloîtré dans les rues de Limoges que demain matin, vous allez développer ce territoire. Beaucoup de choses se passent dans les ministères, beaucoup de choses se placent dans les milieux économiques. Et donc, c'est aussi ça le sens de la politique. Et si localement, à la fin du mandat, on peut avoir recréé autant d'emplois nets que ce qui a été détruit par la réforme Fillon et la réforme Hollande, eh bien, j'en serais satisfait. Parce que je pense que c'est aussi ça que les citoyens attendent de nous. Parce qu'encore une fois, cette ville, elle a besoin de vivre. Et pour qu'elle vive, il faut de la population. Il faut des jeunes, il faut des actifs, il faut des gens qui consomment. Et il faut surtout des gens aussi qui soient capables, accessoirement, de payer des impôts. Parce qu'encore une fois, le service public n'est pas gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et donc, si on ne recrée pas de richesse sur ce territoire, demain, on aura des difficultés à pérenniser le service public, qui, je le rappelle, est quand même hyper qualitatif pour une aire urbaine de 200 000 habitants. On a un grand théâtre, on a un hôpital pluridisciplinaire, on a une clinique Chaigneux qui se place parmi les meilleurs de France sur certaines spécialités, on a un réseau de transport en commun qui va être décarboné, ça c'est la transversalité à horizon 2030 qui représente 16 millions de voyageurs. Bref, on est une grande ville aujourd'hui, on est une grande ville parmi les villes moyennes. Et donc, tout ça, ça se pérennise et la qualité de vie qui est la nôtre, elle doit être renforcée. C'est pour ça que là, on a le deuxième volet du projet de territoire, c'est la durabilité, c'est-à-dire comment on se place sur la carte de France et comment on optimise nos atouts. Moi, je considère que nos atouts, c'est la qualité de vie, c'est-à-dire la qualité de l'air, la maîtrise du cycle de l'eau, etc., etc. Donc, on a mis beaucoup d'argent public sur la structuration de cette durabilité. On décarbone 100% de notre flotte de réseau de transport en commun à horizon 2030, donc il n'y a plus aucun bus diesel à horizon 2030, que des bus électriques ou hydrogène. On a décarboné à 100%, c'est fait, notre flotte de collecte des ordures ménagères, qui est 100% électrique ou bio-GNV. On a mis en place deux nouveaux réseaux de chaleur qui vont chauffer 14 000 équivalents logements, c'est-à-dire environ 30 000 personnes, en maîtrisant leur facture énergétique, c'est-à-dire qu'elles paieront moins cher que ce qu'elles payent aujourd'hui, donc ne pas être dépendant des énergéticiens et des aléas du coût de l'énergie. 14 000 équivalents logements, c'est énorme. Ce sont des chantiers qui vont certes gêner la population, ils n'ont pas tardé à commencer à crier, parce que ça va bouchonner un petit peu, ils vont se demander ce qu'on fait avec leur argent public. Bah, tout simplement, on va connecter 14 000 équivalents logements avec la chaleur fatale de la future unité de valorisation de Beaubreuil et la chaleur fatale issue de la STEP, la station d'épuration qui est sur les bords de Vienne, où on va renvoyer une eau dans le milieu qui sera abaissée en température parce qu'on va récupérer les calories de cette flotte pour chauffer les foyers. Donc en termes de durabilité, vous voyez, il y a un fil conducteur, décarboner la flotte de transport, quelle qu'elle soit, mettre en place ces réseaux de chaleur, valider une future UVE à la place de la centrale d'énergie déchets qui commence à être obsolète. C'est un énorme chantier, c'est un marché public à plus de 200 millions. Donc c'est pas anodin sur un territoire. Et puis la création, et ça j'insistais beaucoup là-dessus, d'un pôle de transition environnementale qu'on a baptisé Aster, en référence à Esther, où on va produire une énergie renouvelable sur le territoire avec du photovoltaïque, de la pyrogazéification. On a d'ailleurs été lauréat d'un appel à projet de l'ADEME, encore une fois pour être les moins dépendants possibles des énergéticiens et de la livraison d'énergie extérieure, parce qu'on l'a vu pendant le Covid, ça est un peu compliqué, mais on l'a surtout vu pendant la guerre en Ukraine avec des factures qui explosaient pour les collectivités publiques comme pour nos concitoyens d'ailleurs, et donc être le moins dépendant possible. Donc deux grands volets, l'économie au service d'un territoire et les transitions et la durabilité au service d'un territoire, et les deux peuvent être complémentaires parce que vous pouvez aussi créer de l'emploi dans les transitions et dans l'écologie et le traitement de nos ressources naturelles demain. Beaucoup d'argent mis sur le cycle de l'eau, où on a la chance d'être dans un territoire où on maîtrise la ressource. C'est-à-dire que partout en France, vous voyez qu'il y a en période de grande sécheresse des pénuries d'eau, parfois même des camions qui viennent livrer la ressource. Dieu merci, à Limoges, je pense qu'on sera, en tout cas dans le demi-siècle qui arrive, épargné par cela. Mais ça nécessite d'être extrêmement pointu sur la gestion et la consommation de la ressource. On a cette ressource en quantité et en grande qualité. Je suis très heureux de voir que mes prédécesseurs avaient mis en place une régie, parce que c'est la meilleure façon de gérer l'eau pour moi. L'eau est un bien public et donc on se doit d'être extrêmement attentif à sa consommation et au maintien des ressources en quantité. Pour ce faire, on a mis beaucoup d'argent sur le réseau, à la fois sur le réseau de l'eau potable, mais aussi sur le réseau des eaux usées, hein, où on fait en sorte d'avoir un réseau le plus étanche possible pour éviter les fuites. Donc on met beaucoup d'argent public pour étancher, pour rendre ce réseau étanche. C'est pas visible. C'est vrai que c'est moins porteur électoralement que de faire 5 repas des seniors, c'est évident. Moi, je pense que ça peut être complémentaire. Mais ça permet de placer le PCI, le territoire, l'établissement public de coopération intercommunale et le territoire au sens large, dans le 21e siècle, parce que demain, l'eau sera un sujet majeur. C'est déjà un sujet majeur de conflit dans le monde. C'est une ressource qui va être de plus en plus chère, qui va tendre à se raréfier. Et donc, nous, on a la chance de l'avoir ici en abondance. Préservons-la. C'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif d'accompagnement de toutes les entreprises privées qui s'engagent à être dans la réduction de la consommation de la ressource en eau dans leurs usages industriels ou dans leurs processus. On les accompagne financièrement pour permettre ces économies. Et c'est aussi ça le rôle de Limoges Métropole.
Nous sommes à mi-mandat. Il reste maintenant 3 ans. Y aura-t-il assez de temps pour tout faire et pour tout mettre en œuvre ?
Non, les politiques publiques que l'on a engagées, pour certaines, sont très transversales. On réfléchit à l'arrivée d'une école de commerce, prépa grandes écoles sur le territoire. On a des partenaires, notamment situés à Lyon, des partenaires bancaires qui s'intéressent à ce sujet. Ça, c'est quelque chose qui typiquement pourrait dépasser le mandat. L'accueil d'entreprise, là, je vous en ai cité 2. Elles sont quasiment actées et donc on fera l'annonce à la fin de l'année. Mais on ne va pas se limiter là. Je vous dis, l'objectif, c'est déjà de remplacer les emplois nets qui ont été détruits par la réforme de l'armée et par la réforme du statut de capitale régionale. Mais si on peut en chercher d'autres et créer davantage d'emplois nets, on ne va pas s'en priver, je vous le dis. Après, on a des grands chantiers qui vont dépasser très largement le mandat. La restructuration de notre réseau de transport en commun. C'est un dossier qui va dépasser très largement 2026 avec l'arrivée du BHNS et de la ligne A et de la ligne B. La future unité de valorisation énergétique, elle va dépasser le mandat dans sa construction. Donc, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire en politique, on inaugure ce qu'ont lancé vos prédécesseurs et on travaille pour nos successeurs. Malheureusement, j'ai pas inauguré grand-chose sur les 3 premières années, sans vouloir être désobligeant. Donc, j'espère que mes successeurs, si je me succède pas à moi-même, auront plein de choses à inaugurer en 2027, 2028, 2029, 2030 et au-delà. Mais encore une fois, toujours garder le cap, c'est le plus important. Et ce document cadre qui est le projet de territoire, il a reçu quitus des 20 maires de l'agglo pour être mené à bien à minima jusqu'en 2026. Et c'est ce document qui doit être référence pour porter les politiques publiques qui sont les nôtres. Les électeurs pourraient nous en vouloir de faire le contraire de ce qu'on a dit ou de ne pas faire ce qu'on a dit. En revanche, quand vous avez reçu un quitus, quand vous avez reçu une validation par vos pairs pour porter un certain nombre de politiques publiques qui étaient dans nos programmes municipaux respectifs, je ne vois pas pourquoi la population vous reprocherait de mettre en place ce pour quoi elle a voté.
Il faut noter que près de 96% des dossiers sont votés par la communauté urbaine. J'imagine que cela doit être une grande satisfaction.
Oui, ben ça c'est une grande satisfaction personnelle. C'est beaucoup de travail, hein, parce que je passe beaucoup de temps avec les maires. J'ai une structure administrative qui est au contact des maires au quotidien, qui surveille l'évolution des politiques publiques que l'on porte. Mais je pense que nous sommes une des rares agglos, peut-être pas la seule, mais une des rares agglos de France de plus de 100 000 habitants, où 96 à 97% des délibérations sont votées à l'unanimité des membres du Conseil. Il y a 74 élus au Conseil métropolitain. Bon, c'est une grande satisfaction, ça signifie que la méthode, elle marche. Moi, j'ai des amis politiques qui m'ont dit « tu leur fais trop de cadeaux, tu donnes trop à l'opposition ». Moi, je considère qu'il n'y a pas d'opposition à l'Interco. Il n'y a que des maires légitimement élus, donc on fait une gouvernance partagée. C'est ce qu'a fait Juppé et Rousset pendant des années à Bordeaux. C'est ce qu'a fait Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, avec Valentin à Cherbourg. Bon, ça marche, la cogestion et la gouvernance partagée. Donc pourquoi retomber dans des clivages politiques stériles? Moi, je considère que les élections, elles durent 6 mois, la gouvernance, elle dure 6 ans. Donc vous avez le droit de vous en mettre plein la gueule pendant 6 mois. C'est pas très habile et c'est pas très intelligent de le faire pendant 6 ans, parce que c'est tout un territoire qui en pâtit. Donc oui, c'est très paradoxal d'ailleurs, la méthode Guérin sur la gouvernance partagée, elle est parfois critiquée par mes amis politiques, mais finalement mes opposants s'y retrouvent, parce que j'aurais pu être dans un truc complètement stérile à l'image de ce qui s'est fait entre 2014 et 2020, c'est-à-dire de dire on est majoritaire sur le moment, donc on vous traite pas et vous ne participez pas à l'exécutif. Eh bien, on aurait des rapports de force permanents, on aurait des délibérations mal votées, ça traînerait des pieds. Et on le voit sur ce territoire. Partout où on a été unis, on a obtenu gain de cause de la part des services de l'État. Partout où on est désunis, on n'a pas les arbitrages de l'État et on perd du temps. Vous le voyez sur le désenclavement, moi c'est ma grosse déception, c'est de ne pas peser plus sur le désenclavement de ce territoire. Moi j'ai honte de demander aux Limougeaux de devoir attendre la fin des travaux sur la ligne Polt en 2026. Un truc qui peut peut-être les rassurer, c'est que les travaux ils sont en cours. Ça c'est vrai, je les vois, je vais régulièrement sur les voies, de jour comme de nuit, voir l'évolution des travaux. Cette ligne, elle a été abandonnée depuis 40 ans. Il n'y a pas eu un seul travaux d'entretien qui a été fait. Du coup, bah, elle est complètement délabrée et on a les conditions de circulation que l'on connaît. Des trains en retard, des trains qui ne partent pas, des arrêts sur voie qui durent 3 heures sans aucune explication. Les travaux sont en cours, mais j'ai honte de leur demander d'attendre pendant encore 4 ou 5 ans que ce soit fini, parce que ça fait 10 ans qu'on leur dit c'est pour demain. Et donc, plus personne n'y croit. La réalité, c'est que les travaux sont en cours et que le matériel roulant neuf va être livré en même temps sur la Paris-Clermont et sur la Paris-Limoges. Mais franchement, que de temps perdu. Et pourquoi tout ce temps perdu? Parce qu'il y a eu des atermoiements politiques. Si vous n'êtes pas d'accord entre vous pour défendre le désenclavement de votre territoire, l'État vous dit, écoutez, tout ça, ça coûte très cher, mettez-vous d'abord d'accord entre vous et après on verra ce qu'on peut faire pour vous. Vous voyez, le projet d'autoroute concédé sur Poitiers, qui était porté par le président Massy, et je salue son dynamisme et sa pugnacité en la matière. Ça a été très mal expliqué, par les détracteurs. Parce que tout le monde s'en fiche d'aller à Poitiers par autoroute. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir rallier les nœuds autoroutiers qui irriguent la façade atlantique et surtout de rendre la route sécure. C'est une des routes les plus accidentogènes de France au kilomètre, la RN 147. Pourquoi le projet d'autoroute concédé s'est pas fait? Parce que d'un côté, vous avez le président Massy, moi-même, au début Rousset, qui a changé un peu d'avis en cours de mandat, mais au début Rousset, qui était d'accord sur ce projet d'autoroute concédé, mais un département de la Haute-Vienne qui n'était pas du tout emballé, et surtout Poitiers, qui lui, refusait l'arrivée de l'autoroute. Donc l'État vous dit quoi? Vous n'êtes pas d'accord entre vous? Tout ça, ça coûte des dizaines de millions. Donc une fois que vous serez d'accord, on viendra vous accompagner sur ce type de projet. Le projet n'a pas vu le jour parce qu'il n'y avait pas d'accord entre les politiques. Vous savez, tout le monde pense que c'est complexe la politique. C'est bête de chez bête. Hein. C'est d'abord, est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Et si on est d'accord, on peut aller chercher l'État. Si on n'est pas d'accord, c'est même pas la peine d'y aller.
Autre sujet de préoccupation, la ligne ferroviaire Limoges-Angoulême, fermée depuis plusieurs années. Verra-t-on un jour sa fermeture et êtes-vous favorable à cette réouverture?
Limoges-Angoulême, ça c'est une demande du président du département de la Charente, que je trouve intéressante sur le plan de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, c'est quoi les intérêts pour Limoges et pour les habitants du Grand Limoges, les Hauts-Viennois en général? C'est de savoir comment on peut rallier une gare TGV par voie ferrée depuis Limoges. Est-ce que c'est le mieux par Poitiers, le mieux par Angoulême? Bon, la Limoges-Poitiers existe, elle est ouverte, elle n'est pas très efficace et efficiente, mais elle existe. Donc pour la rendre plus rapide, il faudrait engager de l'argent public pour pouvoir arriver à nous connecter à Poitiers. Mais le département de la Charente pousse pour la réouverture de la Limoges-Angoulême, qui elle est fermée depuis déjà 2017. Donc en gros, pour réouvrir la Limoges-Angoulême, c'est 200 millions. C'est à peu près ça le ratio. Ça serait 120 millions pour les collectivités territoriales et 80 millions pris en charge par l'État. Le département de la Charente a déjà budgété de l'argent. Moi, ce que je dis à Alain Rousset, président de région, et à Jean-Claude Lebois, président du département de la Haute-Vienne, c'est mettez-vous d'accord sur le tracé que vous choisissez. Moi, si on me dit, on a une préférence pour Limoges-Angoulême, pour X ou Y raison, eh bien, on met le paquet sur Limoges-Angoulême. Mais on ne pourra pas faire les deux. Ceux qui vous disent qu'on pourra faire les deux, financièrement, les collectivités ne pourront pas le faire. Pour ma part, je serais tenté de vous dire, je pense qu'il y a un intérêt d'aller vers Angoulême, parce que ça vous amène certes vers le nord à Paris-Montparnasse au même titre que Poitiers, mais ça vous amène aussi à Bordeaux, ce qui est plus compliqué depuis Poitiers, parce que ça vous fait perdre presque 1h30 de trajet. Donc pour moi, Angoulême, je pense, recevra plus d'assentiment et d'appétence de la part des habitants du territoire que Poitiers. Mais c'est un ressenti personnel qui ne repose sur aucun fondement scientifique. Hein. Donc, moi, j'attends de voir ce que vont faire mes partenaires. J'ai dit au président Rousset, avec qui j'entretiens des rapports très cordiaux, qu'une fois qu'ils auraient tranché avec les deux présidents de département ou les trois présidents de département concernés, Charente d'un côté, Vienne de l'autre et bien sûr Haute-Vienne, et que le choix sera porté sur un investissement massif sur une des deux lignes, eh bien, je viendrai en support avec Limoges Métropole pour accompagner une de ces deux infrastructures.
On reparle d'écologie et de l'hydrogène. Un projet de centrale avait été lancé dans l'agglomération de Limoges. Qu'en est-il ?
Alors, l'hydrogène, c'est une marotte qu'ont beaucoup d'élus. Pour moi, c'est une technologie d'avenir. C'est quelque chose qui, demain, va rentrer dans les mœurs. Je pense même que d'ici quelques années, peut-être une petite décennie, vous aurez des usagers civils qui rouleront avec leur voiture personnelle à l'hydro. Maintenant, je dis prudence. Parce que, qu'est-ce qui se passe sur l'hydrogène ? Beaucoup d'élus veulent un électrolyseur chez eux. Parce que ça fait bien, c'est moderne, on inaugure un électrolyseur, on se fait plaisir, et on est les premiers à avoir ça. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, c'est de l'argent public. La question, c'est est-ce qu'il y a de l'usage ? Bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'usage. C'est que tout le monde veut faire de l'hydrogène sur son territoire, mais il n'y a pas suffisamment d'usage. Moi, j'ai dit à mes amis politiques, pas de problème pour avoir des bus à l'hydrogène, mais on ne peut pas être les seuls à être consommateurs de notre propre hydrogène. Il faut des usages privés pour se faire. Et donc, là, il va y avoir probablement des agréments qui vont être donnés à deux ou trois entreprises françaises pour rétrofiter, c'est-à-dire reprendre des véhicules thermiques diesel pour les basculer en hydrogène. Une fois que ce rétrofitage sera labellisé et valable, nous, on est susceptible d'envoyer pas mal de notre flotte de bus se faire rétrofiter pour rouler à l'hydrogène. Mais il faut absolument qu'on ait des usages privés. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de vulgariser les entreprises locales à cette technologie, qui est une technologie d'avenir. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas essuyer les plâtres. Vous savez, vous me connaissez un peu maintenant, je bouscule personne pour être sur la photo, ce n'est pas du tout mon truc. Encore une fois, c'est le reproche qui m'est fait. Et donc, me faire prendre en photo, à couper un ruban devant un électrolyseur s'il n'y a pas d'usage pour y injecter plusieurs millions, ce n'est pas non plus mon truc. Donc, on va attendre de voir s'il y a des usages. On va essayer de les générer, ces usages. Et une fois qu'on aura généré suffisamment d'usages, on déploiera le plan hydrogène. Mais ça fait partie des choses qui sont dans le projet de territoire.
Guillaume Guérin, le président de Limoges Métropole, était aujourd'hui notre invité. Il a répondu à toutes nos questions. Merci de nous avoir choisis et rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast.